Alors, bonjour Chloé, moi ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec toi ce midi, parce que tout simplement tu as été à l'origine de mon premier livre, et c'est grâce à toi que j'ai réussi à faire une petite notoriété dans le domaine du gros hacking. Et ça, à chaque fois, toi il y a Grégoire Gambato qui était le co-auteur de cette version 1 du gros hacking, qui dit toujours, si il a réussi en partie, c'est grâce à ce livre, qui fait que maintenant il a monté une première start-up. Et que maintenant il est aux États-Unis à faire des millions de dollars et à avoir toute une équipe. Donc quelque part, tu es à l'origine de sa notoriété, de sa réussite, parce que c'est toi qui nous as fait confiance. Alors, Chloé, moi je te connais depuis très longtemps. Est-ce que toi tu peux te présenter?
Oui, salut Fred. Déjà merci pour l'invitation. Donc, je suis responsable éditoriale dans une maison d'édition qui s'appelle Vuber. Et ça fait plus de 10 ans maintenant que j'évolue dans ce domaine. Donc, on s'est rencontrés dans la première maison d'édition dans laquelle j'ai travaillé chez Dunod. Puis je suis passée par Erol et voilà, j'ai toujours évolué dans ce domaine en fait des livres qu'on dit business. Donc, qui ont trait, voilà, à l'évolution du monde du travail, du monde professionnel, de l'entreprise.
Ouais. Alors justement, là tu lances de nouvelles collections avec de nouveaux titres, de nouveaux auteurs, toujours sur le business. Mais pourquoi faut-il écrire encore des livres en 2025? Parce qu'on parle beaucoup de saturation des audiences, de manque d'attention des personnes. Et même je le vois moi, à chaque fois que je fais un gros webinaire 45 minutes, les gens me disent mais waouh, mais est-ce que tu crois que les gens vont regarder 45 minutes de vidéo? Alors je te pose la question, est-ce que les gens veulent encore lire et lire des livres et pourquoi écrire un livre en 2025-2026?
Alors, beaucoup de questions et des sujets très très vastes. C'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte fait que avec les écrans, les réseaux sociaux, la diversification en fait des formes de contenu fait que notre attention s'est réduite, que le temps de lecture effectivement se réduit aussi. On a beaucoup plus de mal à consommer des formats longs. Après, je pense que c'est des habitudes en fait qui s'ancrent et puis enfin voilà, une habitude qui est prise dans un sens peut aussi être prise dans un autre sens. Et on voit aussi en parallèle le développement de formats longs comme des podcasts longs. Typiquement, voilà, toi tu disais que tu fais des webinaires, il y a aussi des podcasts qui durent plus d'une heure, voire
Ouais, comme
3 heures.
Legend. Legend qui est
Voilà,
un des premiers
exactement.
podcasts en France, et ses interviews sont passionnantes. Moi, j'aime bien écouter le format long et le format court, parce que le format court te donne des petites infos, et puis le format long, c'est là que tu rentres véritablement dans l'esprit, c'est là que tu vas rentrer dans la valeur
Exactement.
ajoutée, tu crées du lien, quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, tu rentres beaucoup plus en profondeur dans un format long. Je pensais aussi, par exemple, à la génération Do It Yourself qui fait un peu comme ça, des interviews fleuves. Je pense que pour le livre, c'est la même chose. En fait, la différence entre un article de blog, un post sur LinkedIn ou un livre, c'est évidemment qu'on va pas avoir la même profondeur d'analyse. Quand on écrit un livre, déjà, ça demande en fait de créer une méthode à part entière ou en tout cas un
Un
contexte, un
cheminement, ouais.
écosystème.
Tout
Ouais,
à
voilà,
fait.
c'est ça, un cheminement de pensée qu'on va développer et qu'on n'a pas le temps de développer sur un format court. Donc, la prise de hauteur, elle est différente et l'analyse est différente. Et du coup, la manière aussi de recevoir le contenu, de l'appréhender et de le aussi soi-même en fait de le digérer, on va dire, forcément c'est pas la même chose et tu vas pas en retirer la même chose. De même que en gros oui, si tu lis un post, tu vas peut-être avoir un petit déclic où tu vas te dire ah tiens cette étude elle est intéressante, je vais peut-être aller la creuser ou ah tiens ce conseil ça me parle parce que je le mets en perspective avec telle ou telle autre chose. Bon, en fait, c'est ce que fait aussi un livre, c'est-à-dire qu'il va croiser aussi différentes sources de contenu, différentes informations, différentes analyses, parfois aussi avec l'expérience terrain. Tu peux aussi mixer
Ouais.
théorie, retour d'expérience, témoignage, etc. Et tout ça va faire que tu vas avoir un contenu ou en tout cas quelque chose qui va voilà, te permettre normalement de réfléchir de manière différente, en fait, à ta pratique, à ton quotidien, voilà.
Ouais, mais je suis d'accord avec toi, parce que tu vois, moi je fais plusieurs formats. J'aime bien le format court parce que sur LinkedIn, j'anime régulièrement ma communauté, je réponds aux commentaires, etc. Parce que c'est important pour montrer que tu es présent. J'aime bien les livres audio, c'est vrai que j'en ai parlé souvent, mais les livres audio, j'aime bien parce que tu es un petit peu passif quand tu es un peu fatigué, tu es dans les transports. Moi, j'ai acheté exprès un casque anti-bruit qui me permet en fait de pas mettre trop fort l'écoute et dans tous les cas de figure de pouvoir écouter. Et j'ai bien sûr souvent, très souvent, un livre papier dans mon sac quand j'ai un peu plus de temps, quand je me dis, tiens, voilà, je vais rentrer dans le fond. Et c'est pas du tout la même chose comme tu l'as dit. Un format court, c'est souvent un petit truc, un truc et astuce qui te donne envie et qui tu dis, ah tiens, je vais le mettre en application. Et le problème, c'est que souvent, on ne le met pas en application. Et donc souvent, moi j'aime bien m'envoyer un email en me disant, tiens, regarde ce truc-là et regarde. Et parce qu'autrement, ça s'évapore et ça part et tu passes pas l'action. Le livre audio, moi je les réécoute généralement deux fois ou trois fois. Et c'est là que je commence vraiment à comprendre le livre audio. Tandis que le bouquin, quand je le lis, eh ben, c'est vrai que je souligne un truc, je mets une petite marque, je me dis un truc comme ça. Et c'est vrai qu'après, j'en fais un résumé, moi, sur mon blog, et c'est vrai que là, tout de suite, c'est pas du tout la même valeur, quoi. Et c'est pas le même
Exactement.
usage. Ouais.
Bah, tu as dit quelque chose, je trouve, d'assez parlant. Tu as dit qu'en écoutant un livre audio, tu étais plus passif. Alors que, en gros, quand tu lis un livre, bah, comme tu le dis, tu vas prendre des notes, tu vas peut-être en faire un résumé, etc. Tu vas être plus actif, en fait, dans ta lecture. Et donc, de fait, dans ton apprentissage, en fait, souvent sur les écrans ou sur. Ou sur un podcast, on va effectivement soit lire de manière distraite ou en tout cas dans un environnement peut-être pas forcément propice aussi à l'apprentissage, ou en tout cas de manière voilà passive alors que quand tu lis un livre, à condition évidemment de le faire de manière active, mais logiquement voilà si tu lis un livre pratique, c'est que bah enfin voilà. T'as envie quand même de creuser un sujet, donc tu vas souligner, ouais, prendre des notes, voilà. Et donc de fait, rien que cette posture, en fait, fait que tu apprends de manière différente.
Ouais, et c'est vrai que quand on a travaillé ensemble, j'ai vu aussi la grosse différence entre un blogueur, parce que moi j'ai été habitué à écrire de longs textes, fleuves détaillés. Quand tu m'as fait écrire le premier livre, tu m'as dit, mais non, il faut détailler plus au fur et à mesure de méthode. Je trouve qu'il y a une manière d'écrire qui a changé. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les années romans fleuves où on essaie de faire une encyclopédie, mais je trouve que tous les livres que tu réalises toi-même, il y a cet aspect pédagogie, appel à l'action, il y a les textes, il y a les encarts, ce que vous devez faire, etc., etc. Et moi, j'ai vraiment pris cette méthodologie, c'est-à-dire que à chaque fois que je fais un petit texte et je mets toujours un appel à l'action et des choses comme ça, ce qui fait que finalement, on n'est pas dans une logorée de texte hyper compliqué, mais le livre est comme un support qui est là pour te faire passer à l'action. Et je sais que c'est quelque chose que tu aimes bien faire dans tous les ouvrages que tu es en train de lancer.
Oui, enfin, c'est vrai que ça me semble essentiel, surtout aujourd'hui où justement comment dire, la place du livre a peut-être moins de place qu'avant. Donc, bah, justement, aujourd'hui, ce que veulent les gens, c'est du concret, c'est quelque chose qui soit applicable, à la fois qui te fasse réfléchir, mais qu'on puisse transposer en fait dans son quotidien. Et donc, cet aspect pratique, moi, ça me semble important pour tout de suite, en fait, justement, que le lecteur puisse se dire, bon, bah, ok, comment moi, dans mon quotidien, par rapport à ma propre situation, je peux mettre en place ce que je viens de lire. Et ça aide aussi à la mémorisation. C'est un accompagnement peut-être en fait supplémentaire de l'auteur vers le lecteur pour que le lecteur puisse vraiment tirer le maximum en fait du livre. Et c'est ça qu'on veut, qu'on soit auteur ou éditrice, c'est que le message du livre passe de la meilleure façon possible et de la façon la plus utile possible.
Alors justement, tu as lancé plusieurs collections. Dans tes dernières collections business, quels sont ces différents titres? Et justement, après, c'est ce qu'on a échangé, c'est un petit peu la raison de notre échange, c'est que tu dis le livre, c'est bien. Mais maintenant, il faut travailler vraiment plus sa promotion, sa communication. Et c'est vrai que je suis 100% d'accord avec toi. Quand à chaque fois que je sors mes livres, mes nouvelles éditions, eh ben j'essaye d'avoir un plan promo et les interviews, les podcasts ont vraiment en partie. Alors, vas-y, est-ce que tu pourrais nous rappeler donc les quelques livres qui sont sortis ou qui vont sortir dans ta nouvelle collection et justement ce que vous avez mis en place pour soutenir les auteurs et aider en fait justement les entrepreneurs, les entreprises à mettre en application les conseils qui sont distillés.
Oui, alors bah, dans les dernières publications, en fait, on essaye toujours d'être au plus en phase, on va dire, avec les nouvelles tendances, les nouvelles problématiques des professionnels. Donc, on a aussi un axe assez fort pour tous les indépendants, freelance, entrepreneurs, parce que je crois que c'est des profils, en fait, qui justement ont cette envie d'apprendre, ce besoin aussi d'apprendre, parce que bah, quand on est entrepreneur, on doit faire tellement de choses différentes et qui ne sont pas forcément liées à son cœur de métier. Et puis, on est dans un monde qui évolue très vite.
Ah
Donc,
oui.
forcément, voilà, les choses, elles bougent très vite. Là, on le voit récemment avec l'intelligence artificielle qui nous oblige, en fait, à acquérir des compétences de manière très rapide et sur quelque chose, voilà, qu'on connaît pas, qu'on maîtrise pas. Donc bah, nos livres, voilà, veulent répondre à ces besoins. Donc, évidemment, on a plusieurs publications prévues et enfin déjà sorties et d'autres encore prévues sur l'intelligence artificielle, justement. On a notre auteur San Lebrun qui a écrit un livre qui s'appelle Booster votre business avec l'IA. Et là, qui est justement bah, dans ce positionnement très pratico-pratique dont on parlait tout à l'heure, où là, on est vraiment sur un livre très concret avec beaucoup de conseils, des astuces, des outils qui vont nous permettre en fait d'appréhender l'intelligence artificielle avec ses forces et ses faiblesses et comment voilà, la mettre en place dans son quotidien pro pour gagner en productivité, pour voilà. Donc il y a ça, il y a un livre aussi qu'on publie sur la démarche responsable et écologique. Donc c'est deux autrices, Justine Soulier et Yasmine Machouaté, qui ont créé une méthode en fait pour intégrer la dimension écologique dès la création de la start-up ou de l'entreprise, dès le business model en fait. Puisque souvent en fait c'est quelque chose qu'on va peut-être penser après en se disant bon bah voilà j'ai mon entreprise, comment je peux réduire mon impact, peut-être moins gaspiller, etc. Sauf qu'aujourd'hui le monde est tel qu'il est et la crise climatique est présente et donc il faut revoir complètement nos modes de pensée. Et donc, comment intégrer en fait cette dimension écologique dès le démarrage, en fait, dans toutes les dimensions de l'entreprise. On a un livre bah, justement qui va bien avec notre sujet qui est sur l'apprentissage, qui s'appelle Apprendre à apprendre avec Agnès Alazard et Annabelle Bignon. Et bah justement, en fait, qui analyse aujourd'hui l'impact de l'intelligence artificielle sur notre posture d'apprentissage et les compétences. Et comment aujourd'hui, en fait, dans un monde qui bouge tout le temps, où on doit tout le temps acquérir de nouvelles compétences, bah, comment faire, en fait, quelles compétences sont essentielles ou pas, quelle posture on doit avoir en tant qu'apprenant ou bah, pour les personnes qui sont formatrices, par exemple, ou les consultants qui accompagnent des entreprises ou des collaborateurs ou même tous ces entrepreneurs qui proposent des parcours d'apprentissage, bootcamps, etc. Bah finalement, voilà, comment proposer une pédagogie différente et en phase avec le
Ah, mais je
contexte
te
actuel?
rejoins 100% parce que là, tu vois, j'ai fait une formation pas plus tard que la semaine dernière à une pépinière d'entreprise sur l'emailing et l'IA. Et c'est
OK.
vrai que ça revoit ta manière de faire des emails parce que finalement, le copywriting, qui était quand même quelque chose de très compliqué à faire, c'était vraiment, il fallait connaître les bases, s'entraîner, apprendre à écrire et avoir les différentes structures en tête. Et maintenant, avec l'IA, en fait, c'est redevenu relativement simple. Pareil, sur les objets des emailing, moi j'utilise beaucoup DeepSeek et une IA japonaise, enfin chinoise plutôt, qui permet de travailler sur la créativité. Et là, tu dis, finalement, faut faire attention à ce que l'IA, entre guillemets, fasse pas le job à ta place, parce qu'autrement, il va te remplacer. Moi, j'essaye de travailler comme ça en sparring partner, et j'ai expliqué les quatre méthodes pour faire travailler l'IA, soit bien sûr le prompt classique, soit le méga prompt super détaillé. Soit le GPT où tu rajoutes des documents et tu demandes de réfléchir, et la quatrième méthode qui est la méthode socratique où tu demandes à l'IA de te poser des questions, une dizaine de questions, et à partir de ces questions, réaliser un contenu. Et c'est comme ça en fait que tu apportes de la valeur ajoutée en l'utilisant en coach ou en l'utilisant en partenaire. Parce que pareil pour la rédaction, C'est vrai que maintenant, il n'y a plus de barrière en fait à la rédaction parce que auparavant, écrire du texte, trouver des idées, faire un plan, c'était extrêmement complexe. Maintenant, tu peux t'aider de l'IA. Mais par contre, moi, ce que je remarque, c'est que si je demande à l'IA de rédiger un texte, ça va être fade, ça va être générique. On ne va pas avoir cet aspect passage à l'action, surtout qui est important dans un livre, parce qu'il faut condenser en très peu de temps et en très peu de caractères une idée clé. Et ça, l'idée, l'IA peut t'aider un petit peu à faire une base, mais tu auras du mal à avoir cet impact en fait en si peu de mots.
Oui, bah, de toute façon, ce qui caractérise un bon écrit, c'est aussi le ton, c'est la personnalité que l'auteur va y mettre, c'est la manière dont il va croiser les infos qu'il a pu recueillir, c'est parce qu'il va faire un parallèle entre deux choses où au départ, en fait, on ne voit pas forcément le lien, mais lui fait le lien parce que voilà, dans son environnement. Il a pu identifier telle ou telle chose, plus telle personne qui lui a raconté ceci, et ça lui a fait penser à tel article qu'il a lu dans tel média. Donc c'est ça aussi, je pense, la force de l'humain, et ce qui fait aussi la créativité, c'est bah, c'est aussi s'inspirer de tout ce qui nous entoure. Et l'IA, c'est une formidable base de données. C'est une source d'information, je pense, immense. Voilà, bon, avec les points de vigilance qu'on connaît, bien sûr, sur
La véracité.
les hallucinations et les informations erronées qui peuvent quand même submerger. C'est pas un outil infaillible, donc il faut quand même garder son esprit critique et quand même vérifier toutes ces données. Mais voilà, mais je pense que il faut continuer en fait à en fait il
Garder
faut
son
pas
esprit
choisir la
critique.
facilité, quoi. Voilà, je pense
Voilà.
que le risque de l'IA, c'est surtout de devenir un peu paresseux, quoi. Enfin, en tout cas, de
Ouais,
mon point de
mais je
vue.
suis d'accord avec toi. Si je reviens sur ma fameuse formation emailing et IA, donc j'ai fait ma formation, mais sans penser à l'IA, parce que je me suis dit, bah voilà, lorsqu'on écrit un email, il faut penser à la délivrabilité, les objets, les expéditeurs, ensuite l'offre, malin. J'ai tout détaillé. Et en fait, c'est uniquement à la fin que je me dis, bah tiens, est-ce que j'ai demandé déjà à des amis experts de me donner quelques conseils, il y en a un ou deux qui m'ont aidé. Puis après, il y en a un qui m'a dit, mais j'ai pas le temps, mais demande à l'IA d'analyser ton PowerPoint. J'ai filé mon PowerPoint à l'IA, et c'est vrai qu'il m'a suggéré des améliorations assez intéressantes en me disant, tiens, mets plutôt la délivrabilité en dernier parce que c'est trop technique et au départ, ça va être un petit peu ardu pour les personnes. Tiens, t'as oublié de parler de ceci. Ah ouais, je me suis dit, c'est ça. Mais par contre, il m'a fait des suggestions qui étaient complètement hors sol. Il me disait, mais soit c'était des trucs trop américains, soit c'était des trucs qui n'étaient pas réalisables par une personne. Il disait, mais moi, mon support, il était bien, j'ai rajouté quelques trucs, mais finalement, il m'a apporté quelques petits conseils, des choses comme ça, mais il m'a aussi apporté des mauvaises idées. Et c'est le travail, en fait, de l'humain de se dire, moi, de mon expérience, moi, mon expertise, me permet de dire que ça, c'est intéressant, ça, c'est pas intéressant. J'avais fait une autre formation avec 25 hacks. Donc j'avais fait, je crois que j'avais fait, parce qu'en fait je me mettais à jour parce que tellement ça va vite avec l'intelligence artificielle, j'avais fait cette mini formation de 25 hacks qui dure 3 heures, mais il m'en manquait un. Il y en avait 20 que je trouvais plus bien, j'en avais 24. Et j'ai dit, bon, j'ai filé ça à deux intelligences artificielles, Gemini et Grok, parce que je trouve qu'ils sont vraiment bien. J'ai dit, voilà mon support de cours. Est-ce qu'il manque, qu'est-ce que tu me conseillerais pour ajouter comme hack? Je dis, propose-moi 20 hacks, parce que je me suis dit, un, ça va être trop compliqué. Et dans les 20, il n'y avait rien de bon, quoi. C'était des choses trop
Ouais.
techniques, pas assez techniques, ou trop généralistes et tout ça, où j'avais déjà dit. Et finalement, c'est en rebondissant sur l'idée que, paf, je me dis, ah ouais, finalement, cette idée-là me fait penser à autre chose, et j'ai trouvé mon dernier 25e hack qui me manquait. Et quelque part, je pense que c'est là où on se dit que l'IA peut aider à rédiger, peut aider à faire du travail, mais c'est à toi de faire le filtre, c'est à toi d'expliquer. Et même dans un livre. Quand on avait travaillé ensemble sur la première version du gros hacking, on avait bien fait attention à pas écrire une encyclopédie, mais d'avoir quelque chose de concret et pratique.
Oui, bah oui, c'est ça. Bah, c'est, je pense, la différence entre un bon livre, un bon contenu et un contenu standard qui, bon, à la première lecture, on se dit, ah oui, c'est pas mal, mais finalement, quand tu creuses un peu, finalement, t'as une pensée assez générique et qui voilà, qui t'apporte pas non plus un déclic hyper pertinent ou une nouvelle idée ou voilà.
Ouais. Mais c'est vrai que si on se place maintenant du côté aussi de l'entrepreneur, du côté du consultant, écrire un livre, c'est aussi un moyen d'être reconnu dans son secteur d'activité. Alors moi, ça me sert aussi quand j'écris un bouquin de faire avancer ma pensée, parce qu'on a écrit ensemble un livre sur la déconsommation. Et c'est vrai que ce livre-là m'a même obligé, moi, à aller rechercher dans mes retranchements, à essayer de repenser ce que je voulais faire. Et c'est vrai que c'est un vrai travail entre l'éditeur et l'écrivain. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça permet de gagner en crédibilité. Moi, mon bouquin m'a permis, donc, à moi, à titre personnel, de m'améliorer, de structurer ma démarche, de savoir ce que je voulais faire, d'avoir une méthode, blablabla. Mais ça permet aussi d'être référent dans le domaine. Et grâce à toi et grâce à ce livre, eh ben, j'ai réussi entre guillemets à faire une place dans le domaine de la décroissance des consommations. Pour toi aussi, c'est un élément clé, je pense, pour quelqu'un qui veut se faire connaître sur une thématique, c'est ça?
Oui, bah, je crois que c'est encore la puissance du livre et la valeur du livre, parce que bon, on le sait, aujourd'hui, tout le monde est au courant qu'on ne gagne pas d'argent directement par l'écriture d'un livre. Par contre, ça peut indirectement t'amener du business, comme tu disais, développer ta notoriété, t'amener des clients aussi nouveaux qui te connaissaient pas forcément, qui ont aimé le livre et qui vont avoir envie ensuite de prendre la formation ou un accompagnement plus personnalisé pour aller plus loin. Ça marche aussi beaucoup pour toutes les personnes qui veulent développer les conférences. Aujourd'hui, les conférences, c'est un créneau qui est très croissant dans le monde de l'entreprise. Et c'est vrai que soit des personnes qui faisaient déjà des conférences, le livre, ça leur a permis de prendre une ampleur plus forte. Soit des personnes qui n'avaient pas forcément pensé à cette activité et qui ont été contactées pour donner des conférences parce que l'entreprise ou en tout cas la personne qui gère les programmes avait lu le livre. Donc ça, c'est vrai que c'est un moyen intéressant, comme tu le disais, de soit passer un cap dans son entreprise, dans son expertise, à la fois en termes de notoriété, et effectivement, tu l'as très bien dit aussi, en fait, écrire un livre, ça oblige à se poser, à aller plus loin dans sa réflexion, à aussi modéliser, en fait, ce qu'on fait. Sa pratique, sa méthode, et du coup, bah, forcément, à prendre de la hauteur aussi par rapport à son quotidien et à finalement améliorer aussi sa pratique et le produit ou le service qu'on peut délivrer.
Ouais, tout à fait. Mais ça, en fait, il faut aussi penser à la promo derrière. Moi, je sais que le bouquin, c'est des gens qui sont venus me voir, tiens, j'ai vu le bouquin, mais j'ai fait aussi un gros effort. J'ai envoyé à dédicacer à des influenceurs que je connaissais beaucoup ou pas trop. C'est-à-dire que ça m'a permis de créer du lien avec des personnes, de faire des interviews de ces personnes-là. Et comme ça, d'aller capter un petit peu de leur notoriété. Alors justement, toi, je crois que tu es en train de mettre en place un projet pour justement aider les auteurs de ta maison d'édition à gagner en visibilité. Alors est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Oui, alors déjà, pourquoi aujourd'hui un auteur doit de plus faire la promo de son livre, peut-être encore plus que il y a quelques années, c'est toujours, je pense, parce qu'on s'inscrit dans ce contexte où on a énormément de contenu possible, on a énormément de propositions, et donc capter l'attention, c'est clairement un enjeu aujourd'hui. Et donc pour un auteur, c'est aussi un enjeu, parce que le livre est concurrencé par le livre, mais aussi par les autres contenus que sont les podcasts, les réseaux sociaux, etc., même les films, le streaming, enfin voilà. Donc aujourd'hui, un bon livre, malheureusement, ne peut plus émerger tout seul s'il n'est pas défendu par son auteur. La maison d'édition, elle, apporte un socle, en fait, et elle va permettre que les livres soient présents en librairie. Elle va faire en sorte de mobiliser les libraires, les plateformes, etc., de diffusion pour que le livre soit bien visible. Elle va accompagner l'auteur dans la promotion de son livre, mais c'est vrai que l'auteur a un rôle central.
Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Et là, justement, toi, en tant que maison d'édition, tu as prévu donc un programme spécifique pour ton pool d'auteurs.
Oui, alors, parce que je me suis dit justement, en fait, dans ce contexte, à la fois souvent de frustration des auteurs, en fait, sur le rôle de la maison d'édition dans la promotion du livre et le marketing, et en même temps dans ce contexte aussi où on a besoin de contenu et de contenu aussi solide, d'expertise, qui vont en profondeur. Bon, du coup, je me suis dit, voilà, comment on peut aussi, nous, en tant que maison d'édition, d'édition, parler autrement des livres et surtout quel peut être le rôle de la maison d'édition dans cet écosystème au-delà de publier le livre. Et je me suis dit, bah, aujourd'hui, en fait, il y a deux choses que j'identifie. La première, c'est que je pense qu'on a encore plus qu'avant besoin de liens parce que justement, avec tous ces écrans, cette technologie, etc., on fait beaucoup de vidéos, voilà, et on a tendance à perdre le lien et on voit que bah, les mises en réseau, les événements proches, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font des dîners entre eux pour se connecter, pour échanger, etc. Je crois que voilà, la force du lien et de l'interaction, elle est importante. Donc je me suis dit, bah voilà, comment en tant que maison d'édition, on peut aussi jouer ce rôle de créer du lien à la fois entre les auteurs et entre auteurs et lecteurs. Donc en gros, créer une sorte de communauté qui naviguerait voilà, autour des livres, autour de la maison d'édition. Et puis, bah, comment, le deuxième point, c'était comment, voilà, enfin, comment dire, en tant que maison d'édition, entrer dans ce contexte de création de contenu et proposer quelque chose de différent pour parler des livres. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer le Réveil Business, donc qui est une communauté qui s'articule autour de trois pans, une newsletter, un podcast et un webinaire. En gros, l'idée, c'est tous les mois mettre en avant un sujet et une expertise, donc qui est issue d'un livre qu'on a publié, mais qui va plus loin et surtout qui va apporter un contenu différent du livre, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. L'idée c'est pas de rajouter voilà du contenu pour rajouter du contenu, mais c'est quand même d'apporter de la valeur et ça c'est très important. Et en tant que maison d'édition, je pense qu'on a un rôle très important là-dessus de garantir la valeur de nos contenus, que ce soit dans les livres ou ailleurs. Donc voilà, donc on a pensé le format podcast parce que aujourd'hui voilà l'audio reste un format intéressant qui, sous forme d'interview, voilà, permet à l'auteur de raconter un peu les coulisses de l'écriture de son livre, d'approfondir voilà, quelques conseils, outils qu'il a pu donner dans le livre, peut-être de raconter d'autres anecdotes, d'autres retours d'expérience, en tout cas de creuser un sujet. Ensuite, la newsletter, elle vise bon, bah, à la fois à partager le podcast et les événements de la maison d'édition aussi, voire d'autres événements. On fait aussi un travail de veille qui peut être utile à certaines personnes. Et donc, sur le sujet qui nous intéresse, on propose un outil qu'on a appelé le Déclic Business. Et donc, chaque mois, l'idée, c'est de proposer un outil qui va, sur le sujet du mois, permettre aux lecteurs d'améliorer leurs pratiques ou voilà, de répondre à un problème. Et puis, le webinaire, là, c'est vraiment dans l'idée de faire se rencontrer les auteurs et les lecteurs. Et donc là, en gros, ce sont les auditeurs qui peuvent venir poser en fait toutes leurs questions à l'auteur. Donc c'est vraiment voilà, un temps d'échange entre les lecteurs et les auteurs. Et puis le petit bonus, mais là c'est une communauté privée, il y a aussi un groupe WhatsApp entre les auteurs, où là l'idée c'est de bah, connecter aussi les auteurs entre eux pour voilà, se soutenir, se donner des conseils, partager leur expérience, etc. Alors je ne t'entends plus.
Je disais, je pense que tu as tout à fait raison, puisqu'en fait, ce travail en réseau, pour moi, il est essentiel. En réseau avec les lecteurs et ses potentiels clients et prospects, parce qu'en fait, ces personnes-là, bah, vont avoir confiance en toi, tu vas créer du lien. Et en même temps, le réseau entre les différents auteurs, parce que de plus en plus, il va être compliqué de travailler seul, et donc il faut plutôt travailler en groupe. Et ça, cet aspect partage de bonnes pratiques va permettre aussi de s'inspirer les uns les autres. Moi, je trouve ça que c'est vraiment intéressant. Et dans ce dispositif de promo, justement, c'est un petit peu ce qui manquait. C'est cet aspect, voilà, la maison d'édition anime régulièrement avec un fil rouge et transmet une petite partie du savoir de chaque livre pour donner en fait justement envie d'aller un petit peu plus loin avec les auteurs. Voilà.
Tout
Alors
à fait.
justement, si les personnes veulent s'inscrire, vous avez créé la newsletter sur Substack, qui est la plateforme des créateurs en général qui veulent en fait générer une newsletter. Donc moi aussi, j'ai ma newsletter sur Substack, qui est très bien pour la création de contenu. Après, si on veut vraiment vendre et faire de l'emailing régulier, promotion, etc., d'autres plateformes sont un peu plus adaptées, mais Substack, moi, c'est ce que j'utilise pour envoyer à mes inactifs, pour envoyer une newsletter un peu commerciale. Et c'est vrai que j'aimais bien le titre qui est le shot d'idées pour ton activité. Je trouve que c'est vraiment bien. Et puis avec le petit réveil, on est vraiment sur cet aspect réveil business qui est vraiment intéressant. Alors justement, ça va être quoi tes prochains invités qui vont venir soit pour le webinaire, soit sur la newsletter? C'est quoi le programme à venir?
Alors, bah, ce mois-ci, donc là en décembre, c'est l'auteur dont j'ai déjà parlé, c'est San Lebrun qui est mis à l'honneur. Donc, on parlera intelligence artificielle dans la newsletter et dans le podcast. Ensuite, en janvier, on va aborder le sujet de la visibilité et du storytelling avec Steve Ongponoo, qui est un des plus grands influenceurs actuels. Et dont le credo, en fait, c'est justement de proposer aux personnes qui sont invisibles, bah, de devenir visibles pour voilà, pouvoir mieux développer leur activité. Et puis après, dans les autres thèmes à venir, on va avoir le sujet de l'argent et comment, en fait, notre rapport psychologique à l'argent. Donc, si je caricature un peu, pardon, est-ce qu'on est plutôt dépensier ou économe? Est-ce que on va avoir tendance à voir loin et être très prévoyant, par exemple, sur son avenir en prenant un plan épargne retraite, voilà? Ou à l'inverse, est-ce qu'on est plutôt quelqu'un qui voit au jour le jour? Et bref, nos comportements personnels, en fait, et psychologiques liés à l'argent, bah, finalement, impliquent la manière dont on gère notre business, notre activité, y compris notre relation client, que dans la facturation, dans son positionnement prix, etc. Donc voilà. Donc c'est Sandrine Ricci qui a créé un outil qui s'appelle le Money Profile et donc qui va nous raconter ça. On va avoir aussi un autre sujet sur le marketing. En gros, là, c'est un peu les comment dire des hacks marketing que l'auteur en fait a repris de grandes marques, donc que ce soit des marques très connues comme Dior. Je sais pas, Apple, des grandes surfaces de distribution, enfin bref, dans tous les secteurs. Et finalement, comment utiliser ces techniques, ce qui a fait leur succès avec leur gros budget, bah, comment faire quand on a zéro budget, mais voilà, en fait, comment répliquer ces techniques et ces hacks marketing à son petit business, à sa petite échelle quand on n'a pas de moyens.
Ah non, mais je te rejoins à 100% parce que il faut ces petits hacks pour avoir un petit booster de visibilité. Après, pour la stratégie sur le long terme, mais parfois il y a des petits trucs comme ça qui permettent de te donner vraiment ce seuil que tu dois dépasser pour gagner en notoriété. Alors, pour les gens qui veulent s'abonner, donc ils ont juste à aller sur réveilbusiness.substack.com ou alors tout simplement taper dans Google. Je pense, si tu tapes réveil business, je vais regarder. Si on tombe dessus,
oui, j'ai pas fait le test.
alors si on tombe dessus, on trouve en fait en premier la page LinkedIn, parce que c'est vrai que vous avez non seulement la newsletter Substack, mais vous avez aussi la news LinkedIn avec la page où là on va pouvoir s'abonner. D'ailleurs, je suis déjà abonné, donc oui, n'hésitez pas à vous inscrire et à suivre les prochains épisodes avec les webinaires, le podcast et toutes les informations. Alors à bientôt.
À bientôt.